Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Nin Nartré. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Mirage de nos peines est le tome 5 de la saga, juste après El Orage de Victoire Santonac. Une série de romans contemporains français centrés sur des trajectoires de vie bousculées par le traumatisme, les liens affectifs et la reconstruction. Dans ce volet, El Histoire se situe au début de El Hiver, près de 2 ans après El Accident qui a profondément modifié le destin de Lys. Le récit poursuit une exploration intimiste de son quotidien entre fragilité psychologique, tensions familiales et décisions lourdes de conséquences. La maternité et la parentalité y occupent une place importante, montrées sans idéalisation, avec leurs zones de non-ombre, la fatigue, les conflits et les dilemmes. Le livre S, inscrit dans un registre émotionnel marqué, porté par une écriture fluide et empathique, attentive aux nuances intérieures, et l'objectif principal est de faire ressentir. Au plus près, ce que signifie tenir debout quand tout vacille et comment l'entourage, l'amour et l'amitié peuvent t'aider sans tout résoudre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, résilience après El Accident et temporalité du traumatisme, le roman s'ancre dans un après-coup. Lorsque le choc initial est déjà passé, mais que ses répliques persistent, en situant intrigue près de 2 ans après El Accident de Lys. Elle autrice met en avant une réalité souvent moins visible, la reconstruction ne suit pas une trajectoire linéaire, et le temps ne guérit pas mécaniquement. El Hiver devient un cadre cohérent pour traduire à l'usure, la lenteur et le sentiment de stagnation qui peuvent accompagner cette période. La résilience présentée ici n'a rien d'un slogan, elle se manifeste dans des gestes concrets, des journées ordinaires difficiles à traverser. Et une lutte intérieure où coexistent colère, espoir et découragement. Le livre invite ainsi à comprendre que tenir bon peut signifier composer avec des limites nouvelles. Accepter des rechutes émotionnelles et redéfinir ce que serait un équilibre acceptable, en restant au plus près du vécu de Lys. Le récit donne une forme narrative à la durée du traumatisme et à la façon dont il réorganise l'identité, les priorités et les rapports aux autres. Deuxièmement, maternité et parentalité sans idéalisation, un des axes les plus marquants du tome, est la représentation nuance de la maternité. Lys se trouve confrontée à une grossesse et, plus largement, à la parentalité dans ce qu'elle a de concret, parfois lourd, et rarement conforme aux images lisses. Le roman insiste sur les tensions entre l'amour porté à elle enfant et l'épuisement, entre la responsabilité et la sensation de ne pas être à la hauteur. Il met aussi en scène les aspects logistiques et émotionnels de la garde qui peuvent devenir un terrain de conflit et d'inquiétude. Cette approche a une portée importante dans le paysage du roman contemporain, car elle ouvre un espace où les ambivalences sont légitimes, on peut aimer et souffrir. Vouloir protéger et se sentir débordé, espérer et redouter, sans transformer l'histoire en manifeste. Le texte propose une lecture empathique des contraintes physiques et psychiques, et rappelle que la parentalité se vit souvent dans l'imperfection. Ce regard réaliste renforce la crédibilité des situations et la proximité avec l'expérience des lecteurs. Troisièmement, conflits familiaux et enjeux autour de la garde. Le tome explore la famille, non comme un refuge automatique, mais comme un système traversé par des rapports de force, des malentendus et des blessures. Les difficultés autour de la garde de l'enfant, évoquées dans les éléments publics disponibles, installe une tension structurante lorsque la vie intime devient un dossier. L'affection et la vulnérabilité se heurtent à des procédures et à des positions figées. Le roman montre alors comment la parentalité peut devenir un champ de bataille où chacun revendique une forme de légitimité, parfois au détriment du dialogue. Pour Lys, ces enjeux accentuent la charge mentale et ravivent des émotions déjà fragilisées par l'accident et ses suites. L'intérêt littéraire est double. D'une part, la narration donne à sentir la violence particulière des conflits familiaux qui touchent à l'identité, à la loyauté et au sentiment d'appartenance. D'autre part, elle souligne l'importance des soutiens, même imparfaits, et la nécessité de poser des limites pour se protéger. Cet équilibre entre attachement et confrontation nourrit le réalisme psychologique du récit. Quatrième moment, colère, espoir et vie émotionnelle comme moteur narratif, le roman met au premier plan une palette émotionnelle dense, où la colère occupe une place centrale. Plutôt que de la réduire à un défaut, il la traite comme un symptôme, parfois comme une énergie de survie, qui signale une injustice ressentie ou un besoin non entendu. Cette colère cohabite avec des moments de désespoir et des élans de projection, ce qui évite une tonalité uniformément sombre. L'intérêt de cette construction est de rendre la lutte intérieure lisible. Lys n'est pas seulement confrontée à des événements, elle se confronte à elle-même, à ses réactions. Jure ses contradictions. Dans une saga axée sur l'intimité, ce sont souvent les micro-bascules émotionnelles qui font avancer l'histoire autant que les grands tournants. L'écriture empathique associée à la série, telle que rapportée par des lecteurs, favorise l'immersion et la compréhension des ressorts psychologiques. Le texte propose ainsi une expérience de lecture centrée sur l'identification et la lucidité d'être, ressentir la force d'un attachement, la fatigue d'un quotidien, la peur de perdre. Et la nécessité de continuer malgré tout. En dernier lieu, lien d'amour et de d'amitié comme soutien imparfait mais décisif dans la continuité de la saga. L'amour et l'amitié apparaissent comme des forces structurantes, sans être idéalisées comme des solutions miracles. Le tome met en lumière l'importance de être entouré quand tout vacille, tout en rappelant que les proches ne savent pas toujours comment aider, et que leur présence peut aussi réveiller des tensions. Cette approche réaliste rend les liens plus crédibles au soutenir ne signifie pas effacer la douleur, mais rester là, traverser l'orage au coteau de l'autre et accepter ses failles. Le récit insiste sur la complexité des relations humaines, faites de maladresse, de loyauté partagée et d'eau d'attente parfois incompatibles. Pour Lys, ces liens fonctionnent comme des points de appui qui permettent de ne pas isoler totalement et comme des miroirs qui l'obligent à se regarder en face. Elle intérêt thématique est de montrer que la reconstruction est rarement solitaire, mais qu'elle demande une négociation constante entre besoin d'autonomie et besoin d'aide. En cela, le livre inscrit dans une veine intimiste où la qualité des relations, plus que les événements spectaculaires, devient le véritable terrain du changement. En conclusion, le Mirage de nos peines s'adresse de n'abord aux lecteurs et lectrices de romans contemporains émotionnels attachés au portrait psychologique et au récit de reconstruction. Il conviendra particulièrement à ceux qui suivent la saga juste après l'orage, car ce tome est inscrit dans une continuité et approfondit les conséquences d'un accident sur la durée. Plutôt que d'en proposer une résolution rapide, on y trouve une réflexion sensible sur la résilience, mais aussi sur la parentalité et la maternité vécue sans phare. Avec la fatigue, les doutes, les contradictions et les pressions qui entourent la garde d'un enfant. Le bénéfice principal de lecture est de mettre des mots sur des expériences souvent tues en donnant de la légitimité à des émotions complexes comme la colère, la peur et ambivalence, par rapport à d'autres romans psychologiques centrés sur le trauma. Le livre se distingue par son ancrage dans le quotidien et par l'importance accordée aux relations, à la fois comme source de conflit et comme appui indispensable. Cette combinaison de réalisme intime et d'eau d'empathie narrative crée une lecture immersive, qui touche moins par l'extraordinaire que par la justesse de situations familières et profondément humaines. Si vous souhaitez soutenir Victoire Centenac, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.